voix nue. Cette semaine, Marie-Laure Delorme me rencontre Jean-Pierre Elkabbach. Ce soir, les passions possibles.
Bonjour Jean-Pierre Elkabbach.
Bonjour.
Après avoir évoqué l'Algérie, le journalisme politique, on va parler de vos autres passions, de vos autres rencontres. Car vous avez interviewé aussi des scientifiques, des artistes, des historiens,
des écrivains.
Est-ce que j'ai bien cité toutes vos passions, Jean-Pierre Elkabbach ?
Oui, la plupart. Mais il y a une passion que vous n'avez pas citée, qui est ma première passion, qui est unique, irremplaçable, définitive. Je n'en ai jamais parlé parce que c'est une confession d'ordre privé. Mais puisque vous me demandez, Nicole Avril, rencontrée en 1972, épousée en 1974, 49 ans ensemble. C'est la rencontre de ma vie. Sans elle, je ne sais pas ce que je serais devenu. Elle m'a encouragé, contesté, soutenu dans toutes les épreuves. J'ai pu traverser toutes les épreuves sans y laisser ma peau. Je pense que c'est grâce à elle. J'ignore ce que je lui ai, moi, apporté. Mais je sais ma dette à son égard. Et j'en parle parce qu'elle n'est pas là. Sans doute écoutera-t-elle. Et elle rougira et elle me grondera. Mais je veux dire, récemment, elle était à mes côtés, chaque jour à l'hôpital. Puis en convalescence, elle m'a réappris à marcher, à respirer, à manger. Je vis un peu grâce à elle, naturellement à l'équipe de la professeure Sylvie Bonvoileau, qui m'a opéré, qui est une magnifique à l'Institut Curie. Et c'est Nicole qui m'a redonné le goût de continuer, de résister, de repartir. Mais en plus, pour moi, comment dire, quand je l'ai connue, elle avait déjà publié deux livres, qui étaient l'extraordinaire Jean de Mizard et l'été de la Saint-Valentin, qui étaient salués, vous voyez, j'en bafouille parce que je suis ému quand je parle d'elle, qui avait été saluée par toute la presse, qui soulignait, je me rappelle la citation, sa profusion de dons. Pour moi, c'est, je ne dis pas parce que c'est mon épouse, pour moi, Nicole Avril est un des grands écrivains français. Depuis que nous sommes rencontrés, qu'elle est avec moi, elle a écrit une vingtaine de livres, des essais, des témoignages personnels.
Dont de grands succès, La Disgrâce, L'Impératrice, notamment.
L'Impératrice, Dora Maar, Flora Tristan, L'Impératrice, oui, d'Elisabeth d'Autriche, etc. Et toujours avec une connaissance approfondie. Donc je l'ai vu écrire et le succès et la renommée de l'écrivain Nicole Avril ne lui est jamais monté à la tête. Elle garde ses exigences, sa force et d'une certaine façon son sourire. Et je voudrais dire aussi que je suis heureux de ses succès. Parce que quelquefois, il y a des maris qui n'aiment pas que leur épouse ou leur compagne ait du succès. Moi, au contraire, c'est ça. Et puis si c'était pas ça, peut-être qu'elle m'aurait laissé tomber. Je suis toujours impressionné par son style quand je la lis. L'élégance, il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de gras. Mais en plus, ça touche. Est-ce que je me laisse aller encore à une confidence ? Je dirais que le moment venu est le plus tard possible. Je veux partir le premier pour que le visage de Nicole soit le dernier visage et le dernier regard de ma vie. Ça, je le dis le plus personnellement possible. Même si j'y pense entre nous, nous n'en sommes pas là, heureusement.
Vous avez une fille aussi, Jean-Pierre Elkabbach.
Emmanuelle, que j'adore.
Voilà, qu'on connaît notamment parce qu'elle a eu un rôle dans Le Village français, série à succès, donc qui est comédienne.
Elle est comédienne. Elle a voulu être comédienne depuis tout le temps, depuis qu'elle était gamine. Je n'ai jamais voulu la dissuader parce que c'est un métier très difficile dont elle fait l'expérience aujourd'hui. Et alors que la plupart des filles et des fils de comédiens ou d'artistes ont pu avoir des facilités. Elle, parce que son père était journaliste, critiqué, contesté, adoré, souvent chahuté, ben, elle a eu plus de difficultés. Mais ça marche, tout en sachant que c'est un métier difficile. Et Emmanuelle Bach, c'est une actrice qu'on a vue et qu'on devrait voir encore.
C'est une partie consacrée à vos passions. Vous avez parlé de Nicole Avril, vous avez parlé de votre fille comédienne. La littérature est une de vos grandes passions. Est-ce que certains livres ont fait de vous ce que vous êtes, hein, Jean-Pierre Elkabbach, hein?
Oui, d'abord, les livres me sont indispensables. Vous m'avez vu arriver tout à l'heure, j'avais un livre à la main.
Il paraît, oui, que vous lisez tout le temps.
J'ose pas dire, ça ferait peut-être le mariole, mais c'est vrai que je lis tout le temps. Et parfois, je lis deux livres en même temps, un roman et un essai. J'en porte un toujours sur moi. En ce moment, je relis, entre autres, Balthazar Gracian, qui était un jésuite du XVIe siècle. J'adore arpenter les librairies, sentir les livres, le silence. Je suis heureux que les librairies aient ouvert après avoir été fermées pendant un bout de temps, mais j'allais avec ce qu'on appelle le click and collect. J'aime écouter les conseils des libraires, feuilleter, humer les livres, et j'aime aussi relire. Alors, ce que je relis volontiers, c'est, même si ça me fait rire, Les Trois Mousquetaires, Le Vicomte de Bragelonne, Les Dumas. Si je dois au livre d'avoir surmonté les crises et les blessures, ça c'est sûr. Bon, grâce à, peut-être que je fais rire, mais qu'est-ce que vous voulez, Frédéric Nietzsche, que mon prof, quand j'étais en troisième, a commencé à me faire lire avec les poèmes de Heine. C'était Sénèque, Les Lettres à Lucilius, que j'ai recommandé à François Mitterrand. Mais qu'est-ce qu'il dit encore, votre Sénèque? Et un jour, il me dit, mais je lui ai apporté un. Il m'a dit, eh ben, c'est pas mal, hein, votre Sénèque. C'est pas mon Sénèque, mais à Nicolas Sarkozy aussi. Puis voilà, quelques-uns. Et puis, je ne veux pas oublier, c'est moi qui ai créé le prix du livre France Inter. C'est moi qui ai créé le prix du livre France Télévisions. C'est moi qui avais nommé Bernard Pivot pour le présider. Et c'est moi, modestement, qui ai créé une série qui a duré pendant 7 ans, qui s'appelait les écrivains du siècle, que présentait Bernard Rapp, qui était un excellent journaliste.
Vous vous intéressez-vous à la nouvelle génération d'écrivains ?
Bien sûr, bien sûr. Et quand je faisais Bibliothèque Médicis, il y en a beaucoup qui ont défilé avec nous à l'antenne. Les Laslimani, il y a toute une liste qui sortait leur premier livre, qui à l'époque était critiqué et qui maintenant sont adulés parce qu'elles ont fait des progrès, parce qu'elles ont appris à parler de leurs livres et elles ont écrit encore mieux. J'étais toujours attentif à ça, aux historiens aussi, dans certains cas, aux philosophes. J'ai jamais pu me passer des philosophes, je veux dire, modestement, attention, hein. Peut-être que ça fait bien de les lire, mais en tout cas ça m'a enrichi, j'ai pas toujours tout compris, mais j'ai aimé et j'ai appris. Je crois que je suis le seul journaliste français à avoir interrogé le grand philosophe allemand Karl Jaspers. En Allemagne, avant la montée du nazisme, il y avait deux philosophes, Heidegger et Jaspers. Heidegger s'est compromis avec le régime nazi, on sait les histoires, etc. Le côté noir de Heidegger, même si certains veulent le rendre plus gris, pas blanc, mais plus gris. Mais Jaspers, je l'ai rencontré à Bâle. C'est sa femme, Gertrude, qui était venue m'ouvrir la porte. On avait passé tout un après-midi avec lui. Ça fait partie des rencontres qui marquent. Et Jaspers, pas seulement parce qu'il avait écrit sur Nietzsche, venait d'écrire un livre sur la bombe atomique et l'avenir de l'humanité. Et lui, je l'admirais aussi, parce qu'il a été le premier, en 1946, à dire la responsabilité, la culpabilité même de l'Allemagne nazie, et qui avait fui le régime de Hitler, parce que Gertrude, sa femme, était juive, et qu'il en était parti. Et les deux, en plus, Heidegger et Jaspers, avaient été les formateurs d'Anna Arendt. Mais c'est Heidegger qui était tombé amoureux d'Anna Arendt et de sa robe verte. Non, mais les philosophes, Yankelevitch, René Girard, que Jacques Attali m'avait fait connaître, que j'ai fait travailler avec moi quand j'étais directeur de l'information d'Antenne 2.
Vous arrive-t-il, Jean-Pierre Elkabbach, d'avoir le trac?
Tout le temps.
Face à ces personnalités-là?
Ah, tout le temps, tout le temps. Mais tous les jours, à l'antenne, à la radio, à la télé, avant de commencer, le trac, c'est une sorte d'exaltation, c'est une sorte de tension, c'est une peur. C'est de la vitamine, c'est de la dynamite, c'est parfois épuisant parce que il y a des heures nécessaires pour retrouver presque son équilibre, mais j'ai le trac en général, et quand vous avez des personnalités comme ça, vous hésitez. Il y a des gens que j'ai hésité à interroger. Raymond Aron, j'ai mis des années avant de le faire, et quand j'ai fait son interview pour ses mémoires, il a pleuré. parce que quand il parlait de son père, et c'était 3 jours avant sa mort, j'ai interrogé Paul Venn, l'historien. C'était Lucien Gerfagnon, qui est spécialiste de Saint-Augustin et spécialiste de la Rome antique, la Rome antique, et qui avait un humour extraordinaire. Et après, j'étais devenu ou un disciple ou un ami qui le suivait. Et je retiens, tous les jours, je me pose la question qu'il m'avait dit. Chaque soir, avant de dormir, il disait textuellement, et il l'a dit dans un Bibliothèque Médicis, chaque soir, je dis à ma femme, qu'est-ce que je peux faire pour être moins con demain ? Eh bien, c'est ce que je me demande chaque soir. Comment être moins con demain ?
Peut-on, Jean-Pierre Elkabbach, être un bon journaliste sans être cultivé ?
Je ne pense pas.
Je ne pense pas.
Parce que...
On dit que la nouvelle génération de journalistes n'est pas cultivée.
Pas tous, mais il y en a qui ne connaissent même pas l'histoire de la Ve République dont ils parlent. Ce qui fait qu'on est toujours dans l'immédiat, dans ce qui se passe dans l'instant et dans la reproduction. On ne peut pas faire ce métier sans lire, sans regarder de la peinture. Moi, je lis plutôt, sans écouter de la musique. On ne peut pas. Et ce qui donne la distance, le recul, ce qui nourrit, ce qui permet de relativiser un événement, ne pas mettre le pays, la France ou l'Angleterre à feu et à sang parce qu'il y a un attentat à Londres et à Paris qui a tué une personne. Mais quand il y en a 150, comment on fait ? Je veux dire qu'il donne la gravité, le poids des tragédies et en même temps leur aspect relatif, sans dire en même temps... comment ça se situe, je ne dis pas dans l'histoire de l'humanité, mais dans l'histoire tout court. Donc on ne peut pas. Et de la même manière, je pense qu'un homme politique, aujourd'hui, ne peut pas ne pas lire. Il ne peut pas. C'est impossible qu'il ne soit pas cultivé. Et c'est impossible et impensable. Même Édouard Philippe le disait très bien. François Mitterrand, où il allait ? Dans les librairies. Dominique de Villepin, où il passait samedi ? Chez les libraires de livres classiques et d'antiquités. Ou chez les antiquaires, c'est pas possible. Sans culture, on n'y arrive pas. Pour prendre... Et d'ailleurs, toutes les grandes figures de l'histoire ont été des gens qui se sont intéressés à autre chose. Je ne veux pas dire Louis XIV avec Racine, Molière, avec ce qu'il a pu faire, créer l'Académie française, faire travailler les architectes, les jardiniers, etc.
Il y a un personnage de l'histoire qui compte particulièrement pour vous?
Pas un, mais un mélange. Parmi les anciens, je dirais Louis XI, ce qu'il a fait pour l'unité du pays, Richelieu, Danton, Barras à sa manière, Bonaparte, pas Napoléon, Bonaparte, et son frère, Lucien. Bonaparte ne s'entendait pas avec son frère. Il l'a exilé, comme le raconte très bien Cédric Lewandowski, qui est un historien amateur, mais qui a réussi le portrait de Lucien Bonaparte. Parmi les, je peux ajouter Bismarck. Il y a une phrase de Bismarck qui m'amuse. « La diplomatie sans les armes, dit-il, c'est de la musique sans les instruments. » Ce qui m'a fait bien comprendre ce qu'est la définition de la dissuasion, même nucléaire, et en même temps de la souveraineté. Une diplomatie sans les armes égale, comme on dit, walou, rien. Et voilà, les autres, c'est... Mendès France, je l'ai dit, François Mitterrand, je l'ai dit, Poutine, voilà. Et
vous avez de l'admiration pour Poutine ?
Il ne faut pas dire de l'admiration.
De l'intérêt.
De l'intérêt. Parce qu'en plus, comme je l'ai interrogé, on est resté avec un ami très tard avec lui, en tête à tête. Et ce qu'il nous a dit de son analyse de la situation de la Russie par rapport aux États-Unis, à l'époque c'était Obama, à la France, à l'Europe, etc., était tout à fait passionnant. C'était intéressant de voir la Russie, non pas à travers ce que les Antilles disent, mais en même temps, lui, son, par exemple, qui se sentait encerclé par d'autres pays inspirés par les États-Unis. Pourquoi il est allé en Ukraine, dit-il ? C'est parce qu'il pensait que le nouveau gouvernement d'Ukraine était en train de donner des villes ou des ports comme Kiev, etc., aux Américains, parce que la CIA ou le FBI étaient derrière les révolutionnaires. C'était son analyse. C'était intéressant toujours d'écouter. Et puis parmi les gens que, avec Alain Duhamel, dans Carte sur table, nous avons interrogé, les seuls, Hafez al-Assad, à Damas, le père du criminel, qui, entre parenthèses, n'était pas un tendre, lui non plus, et puis Anwar el-Sadat. Anwar el-Sadat, qui avait eu le courage de rompre avec le climat général après une guerre et d'annoncer qu'il était prêt à aller à Jérusalem, qui est allé à Jérusalem et qui s'est adressé à la Knesset devant les députés, le Parlement israélien, et devant tout le peuple israélien, devant le monde entier. Et ce qui fait que certains fanatiques du monde arabe l'ont tué quelque temps après. L'assassinat de Sadat date de ça. C'était un type courageux.
Vous avez interviewé de nombreuses personnes. Est-ce que vous avez noué des liens amicaux avec certains d'entre eux ?
Oui. Enfin, amicaux, je ne sais pas. Mais François Mitterrand, je l'ai beaucoup vu. Beaucoup. D'autres... en ce moment, avec Emmanuel de Varisquiel, grand historien, ou avec Patrick Guénifet, grand historien, avec Monique Cantos-Perber, qui a travaillé avec moi pendant 5 ans et qui est philosophe libéral. J'étais très bien avec René Girard jusqu'à sa mort. Oui.
Vous nous avez parlé de votre amitié avec Alain Duhamel. C'est important pour vous, l'amitié ?
Oui. C'est pour ça que je ne la gaspille pas, que je l'accorde avec parcimonie. Et j'ai quelques amis auxquels je suis fidèle, qui peuvent tout demander, et auxquels je sais que je peux tout demander, et qui, dans les moments difficiles qu'ils traversent, ou dans les épreuves que je vis, ont toujours été là. Et Alain, il fait partie de cela depuis 1977. Ça va être 44 ans. 44 ans. Voilà. Et oui, c'est vrai. Et chaque fois qu'on fait des interviews, le cœur bat, avec une tension incomparable et qui est en même temps stimulante.
Quels sont les penseurs qui nous aident à penser le monde actuel, Jean-Pierre Elkabbach, hein ?
Socrate, Sénèque, Nietzsche,
les classiques.
Marx, Tolstoï, les grands écrivains. Dumas, le vicomte de Bragelonne, lisez-le. Oui, les classiques. Aujourd'hui, j'aurais pu vous dire Edgar Morin, j'aurais pu vous dire Albert Camus, qui m'a tellement marqué. Mais parmi les grands, j'en vois pas. Je ne veux pas vous donner de noms de gens que je ne cite pas, parce qu'ils sont tellement mangés par l'actualité et le plaisir d'être dans les médias qu'ils se sont banalisés. Donc, c'est pas eux que je lis volontiers, vous voyez ? Pas du tout.
Vous comprenez que quelqu'un comme Milan Kundera ait choisi le silence, justement. Vous parlez d'intellectuel mangé par l'actualité. Vous le comprenez, Milan Kundera, qui à un moment s'est retiré du cirque médiatique, de la société.
Vous voulez dire que je regrette qu'il ait choisi le silence. Parce que mon rêve, c'était de le réinterroger. Est-ce que vous savez que j'étais à France Inter à une époque et je faisais des émissions qui s'appelaient 12-14. Et... il venait d'arriver à Rennes. Et je l'ai interrogé à Rennes sur un des livres qu'il venait d'écrire. Je l'avais parcouru. C'est Nicole Avril qui l'avait lu à fond et avec elle, j'avais préparé l'affiche, j'avais tout préparé. C'était une des seules fois de ma vie. Tiens, voilà un regret. Une honte même. Oula, je me gifle. Et je suis allé interroger Kundera. Et on ne connaissait pas tellement en France, hein. Il y avait les papiers d'Aragon, etc., sur lui. Bon, je ne connaissais pas. Et pas trop. Il va se produire la seule fois que j'ai connu ça dans ma vie de professionnel. Je l'ai interrogé et au bout de 5-10 minutes, c'est lui qui a pris la main sur l'interview et qui a commencé à m'interroger sur ses propres personnages. Avec une finesse, une intelligence, un humour. Et moi, je fondais. J'étais mort de peur parce qu'il était en train de découvrir que j'avais peut-être parcouru et pas assez lu le livre. Et puis après, j'ai repris parce qu'il a bien voulu que ce soit le cas. Donc je regrette qu'il ait choisi le silence, mais je le comprends très bien. Et il restera dans l'histoire de la pensée, dans l'histoire littéraire, en dépit des attaques qui sont faites contre lui, un des grands du XXe siècle.
Êtes-vous européen ?
Ah ben ça, évidemment. Mais ça, c'est une conviction profonde, définitive, un attachement physique à l'Europe, parce qu'elle a tant donné à la culture. Et je l'ai vécu en étant aussi correspondant en Allemagne pendant un an et demi. J'ai vu, j'ai rencontré, etc. Mais je dois vous dire que je déteste l'Europe non élue, technocratique, aux milliers de bureaucrates obtus, cyniques et secs de Bruxelles. J'en ai vu. Il m'est arrivé d'interroger des présidents de commission, Prodi, Delors, d'interroger la commissaire Margaret Vestager. Mais en même temps, j'ai vu ce que c'est là-bas. Mais le moment est venu de l'incarner. Avec Angela Merkel, dommage, elle s'en va, avec Emmanuel Macron, avec le jeune chancelier d'Autriche que j'ai interrogé, Kurz, Sébastien Kurz, avec Ursula von der Leyen, qui avait été ministre du Travail à l'époque de Xavier Bertrand et que j'avais aussi interrogé. Tous, je veux qu'ils donnent à l'Europe de la puissance, de la créativité, qu'ils en font peut-être ce que l'Europe mérite d'être. Je ne dis pas un géant, mais un grand, pour parler d'égal à égal avec l'Amérique qui décline et la Chine qui s'envole. Et il y a peut-être des progrès, comme on l'a vu au moment de la crise du Covid, où par nécessité, les Européens ont fini par s'entendre sur la stratégie adoptée, sur les vaccins, et on voit naître sous nos yeux, difficilement, mais une Europe de la santé qui était nécessaire. Et puis en même temps, avec Thierry Breton, tiens, c'est encore quelqu'un qui a son première interview, c'est avec moi, et avec ma collaboratrice de l'époque, Béatrice Schoenberg. Il avait 28 ans. Et avec lui, tout ce qui est sur le numérique, le digital, l'évolution, les données, tout ce qui va renforcer la souveraineté de l'Europe dans le domaine du numérique pour qu'elle ne soit pas bouffée par les GAFA.
On a parlé de la littérature, on a parlé de l'histoire. On peut dire, Jean-Pierre Elkabbach, qu'une de vos passions, c'est le monde. En tant que journaliste, vous avez toujours reproché aux médias français d'être trop franco-français. Vous avez toujours voulu, en tant que journaliste, en tant que patron, une ouverture vers l'international, vers le monde.
Oui, bon, quand j'étais directeur de l'information sur Antenne 2, j'envoyais 20-30 journalistes passaient des semaines en Inde, en Chine, pour faire découvrir les continents, la vie des autres. Je faisais l'Europe. Quand j'étais à la radio, tiens, Jacqueline Baudrier, qui était ma patronne à l'époque, avait accepté le projet que j'avais et que j'ai fait avec quelqu'un qui s'appelait Paul-Jean Franceschini. Je lui rends hommage. C'était un grand journaliste, un prof d'économie que j'avais fait rentrer à France Inter. J'avais fait le mode d'emploi de l'Europe. J'avais fait en voiture, avec les techniciens de la radio, j'avais fait le tour de l'Europe et on racontait l'Italie, la France, la Belgique, les Pays-Bas, ensemble. Donc l'Europe, parce que je suis de la Méditerranée, je vous l'ai dit, de l'Afrique, l'Europe m'intéresse pour l'avenir.
Parmi tous les présidents que vous avez côtoyés, quel est celui qui vous semble avoir eu le rapport le plus étroit, le plus sincère à la culture,
hein? François Mitterrand. Nicolas Sarkozy, il apprend la culture maintenant qu'il a quitté le pouvoir. Il lit beaucoup.
Il est sincère?
Maintenant, oui, il est sincère. Je pense qu'il est encouragé par Carla Bruni. Mais maintenant, quand vous allez le voir, ou quelquefois je déjeune avec lui, parce qu'il m'invite, on parle surtout de livres. Et il peut vous parler d'Anna Karénine, de Dostoïevski, de La princesse de Clèves, maintenant, autrement qu'il en parlait quand il était président. Non, il y a une acculturation de Nicolas Sarkozy post-présidentiel. Mais parmi les plus cultivés, c'est lui, c'était François Mitterrand et Jacques Chirac. Jacques Chirac. Il n'y a que les imbéciles qui continuent à le prendre pour un analphabète et un culte. Il n'y a que des imbéciles, et j'en connais avec des noms qui sont parfois à l'Académie française, qui ont pensé que comme ils ne connaissaient rien à la culture française, ils ne s'est intéressé à la culture, comme ils disent, des autres, des pays lointains. Or non, ils connaissaient la culture occidentale. Mais mieux que la plupart d'entre nous, beaucoup mieux, ils connaissaient tout ce qui concernait l'Asie et surtout l'Afrique. Et j'en ai fait l'expérience. J'en ai fait l'expérience. Si vous voulez une anecdote. Longtemps après mai 81, quand je me suis plutôt réconcilié avec Jacques Chirac, parce que je lui ai dit, en allant le voir un jour, je suis au chômage, je ne travaille pas, je ne peux pas vous interroger de manière brutale, on peut se parler. Et donc, on s'est vu après régulièrement. Et un jour, en avril, je me rappelle, je revenais tout bronzé d'un séjour à l'île Maurice. Et elle m'a dit, d'où vous venez là? Qu'est-ce que c'est ça? Alors que moi, je suis fatigué, je sommeille. Et je lui ai raconté. Et il m'a posé des questions précises. Est-ce qu'il y a un grand décalage horaire quand on prend l'avion? Le matin, à quelle heure on arrive? Quand on part de là-bas le soir, est-ce qu'on est loin? J'ai tout raconté. L'été suivant, je l'ai trouvé là-bas. J'ai trouvé à l'île Maurice. J'étais en train de faire du ski nautique, moi. Pendant que je chaussais un ski nautique, j'entendais une voix. Jean-Pierre, Jean-Pierre! Je connais cette voix. Je me suis retourné et j'ai vu ce que peu de gens ont vu, Bernadette Chirac et Jacques Chirac en pédalo, en train de se promener comme ça, me dire, on est là. J'étais bon. Et on s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup vu. Et c'est là qu'est né ce qui est maintenant le musée Jacques Chirac. Parce que nous nous parlions beaucoup, on faisait du ski nautique, c'est lui qui était dans le bateau qui me tirait et qui faisait des photos, j'en ai, je vous les montrerai. Bon, c'était un autre Chirac, c'était Chirac en maillot, tout à fait différent, ou alors Chirac à table, et qui donnait deux fois le menu, et qui engueulait son épouse, Bernadette, parce qu'elle mangeait une feuille de salade. Il dit, mais vous allez grossir avec ces salades. Et lui prenait deux plats comme ça. Bon, et à un moment, sur la plage, un samedi, on était tous en maillot, vous savez, il y a quelqu'un qui est venu, qui m'a dit, est-ce que vous pouvez me présenter, monsieur Chirac, parce que j'ai vu que vous lui parlez. Alors j'ai dit, écoutez, bon, j'y suis allé. Et Jacques, il a dit, alors, Cabache, m'emmerdez pas, hein. Je veux voir personne. Je suis en vacances, personne. Et c'est sa femme, à côté, Bernadette, qui lui dit, voyons, Jacques, c'est peut-être un des nôtres. Et à ce moment-là, il m'a dit, bon, allez me le chercher. J'ai amené le bonhomme, toujours en maillot. Et il lui a dit, je voudrais vous remercier, monsieur le Premier ministre, parce que j'ai vu que sur votre bureau, vous avez mon livre. Chirac l'a regardé, il a dit, j'ai pas votre livre, j'ai rien sur mon bureau. Le type m'a dit, vous avez mon livre. Chirac l'a pris pour les épaules, il dit, mais non, vous vous trompez, vous devez penser à quelqu'un d'autre. J'ai pas de livre sur mon bureau. Oui, un, sur l'Afrique, de Jacques Kerchache. Il dit, c'est moi Jacques Kerchache. Et alors, c'est vous Jacques, et oui Jacques, ils se sont embrassés. Et tous les soirs, j'ai dîné avec Jacques Kerchache, Jacques Chirac, les épouses et Nicole Avril. Et tous les soirs, j'ai appris à changer complètement de jugement sur Chirac. Il m'a époustouflé. Parce qu'il parlait avec l'autre qui était un spécialiste de l'Afrique. Il lui disait, il y a la tribu d'un tel qui était au Niger en 1172. Chirac dit non, 1182. Ils se disputaient sur des dates, sur des mouvements de population à l'intérieur de l'Afrique, sur la culture. Pour trancher ça, souvent, Jacques Kerchache disait « Je vais vérifier, demain, je vous... » Le lendemain soir, en dîner, c'était toujours Chirac qui avait raison. Et c'est ce Jacques Kerchache qui, les matins, quand on était sur le sable, hein, la plage, lui a dit « Il faut créer un musée. » Alors Chirac dit « Ah, des arts primitifs. » L'autre lui dit « Non, des arts premiers. » Ils se sont d'abord disputés là-dessus. Ensuite, c'est Kerchache qui lui a dessiné le musée qui est devenu aujourd'hui le musée Jacques Chirac.
Merci Jean-Pierre Elkabbach, à demain.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Marie-Laure Delorme avec Jean-Pierre Elkabbach. À voix nue. Réalisation Marie Placet. Prise de son Arthur Gerbeau, Raymond Albuy. Attaché de production Daphné Abgral. Coordination Sandrine Trainer. À voix nue se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr et l'appli Radio France.